Bien, bonjour à tous et à toutes et merci pour ces chants, la louange de notre Seigneur. Merci aussi pour votre invitation, c'est toujours un réel plaisir de venir partager la parole de Dieu avec vous. Patience mon impatient, ou mon impatiente hein, aussi bien sûr, hein, parce que n'oublions pas la gente féminine, n'est-ce pas? Nous aurions pu lire des versets complémentaires, d'ailleurs je vous invite ce soir ou dans la semaine à lire les versets suivants où on a quelques exemples. Un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Alors j'en dis pas plus, enfin c'est pas que je vais me taire, hein, mais voilà, c'est... Tous ces petits exemples du quotidien qui sont intéressants à lire et à méditer, ma foi. Est-ce que nous sommes convaincus de la nécessité et de l'importance de marcher vers une maturité spirituelle? Ah, grande question. Est-ce que cette démarche, ou est-ce que cette marche, est-ce qu'elle nous semble chaotique, si je m'analyse moi-même? Est-ce qu'elle me paraît hésitante? Est-ce qu'elle est faite d'aller et retour, hein, comme on dit, un pas en avant, un pas en arrière? Et ben, pourquoi ça serait chaotique, hésitant et fait d'aller et retour? Ben, c'est parce que bien souvent nous avons besoin de réapprendre des vérités et des choses essentielles, car nous les oublions. Reconnaissons que Dieu est à l'œuvre dans notre vie, même quand je me convainc du contraire. La croissance spirituelle peut être un cheminement long et fastidieux, un petit pas à la fois. Une progression graduelle lorsque l'on monte un escalier marche après marche. Voilà, ça serait l'image de notre marche spirituelle. Hein, imaginons, nous sommes sur terre, nous allons vers les cieux, hein, et nous avons à gravir certains échelons. Il y a des temps, il y a des passages différents dans notre vie spirituelle que l'on pourrait comparer à ce qui se passe dans la nature. Les saisons. Moi, j'aime beaucoup aller me promener en forêt, j'y vais à peu près une fois par semaine, en tout cas j'essaie de maintenir, ça me permet de vider un peu l'esprit, de me faire travailler mon vieux corps, de m'oxygéner et de voir comment la nature change à chaque fois que, au fur et à mesure de mes visites, on va dire. Alors, j'observe la croissance du printemps, très forte croissance, suivie par une période de repos en été, on a l'impression que ça ne bouge pas, de stabilisation, puis une mise à l'épreuve comme en hiver, avec des moments de doute, mais des bénédictions en abondance avec les pluies de l'automne. Là, en ce moment, la nature sommeille. Elle profite de ce qui s'est passé avant. Elle est en train, tranquillement, de se régénérer. Les bois morts tombent, mais servent à nourrir les bois vivants. Et puis, avec le printemps, on va voir apparaître, voilà, de nouveaux bourgeons, des nouvelles branches, et puis l'arbre va grandir. Qu'en est-il de ces problèmes, de ces habitudes et de ces blessures que l'on aimerait voir miraculeusement disparaître? C'est très bien de prier pour un miracle, hein, mais quelle est notre réaction lorsque l'on s'aperçoit que cela prend du temps? Regardez le bord de mer, si vous êtes déjà allé au bord de l'eau. Le courant va éroder les énormes rochers. Les rochers les plus durs va les casser et va les transformer en galets et en gravier et en sable. Alors, je ne vous parle pas de tempête hein, à chaque fois, hein, mais même un ruisseau va polir au fur et à mesure, lentement mais sûrement, la pierre sur laquelle il va passer. Pour revenir à la forêt, là il y a une période où les feuilles sont tombées et puis les glands des chênes sont tombés. Hein, c'est à peu près gros comme l'ongle de mon pouce. Et bien après, au printemps, certains glands vont germer et vont donner des futurs chênes. La dernière fois, je vous ai parlé de la nouvelle année. On s'est souhaité une bonne année, puis on s'est dit, mais pourquoi ne pas noter nos engagements? Voilà l'engagement que je désire prendre pour 2012. Eh bien, avec la nouvelle année et les périodes de vœux, pourquoi ne pas écrire aussi mes engagements? D'accord? Mais aussi les leçons que j'ai apprises du Seigneur en 2011. Qu'est-ce que le Seigneur m'a appris en 2011? Notons ce que le Seigneur nous enseigne, nous a enseigné quelque chose de marquant sur ma vie, sur la vie en général, sur mes relations avec les autres. Alors, non seulement nous allons pouvoir consulter ce que nous avons noté, mais aussi nous serons en mesure de, pourquoi pas, de transmettre ces expériences. Dans Psaume, chapitre 102, verset 19, « Que cela soit écrit pour la génération future et que le peuple qui sera créé célèbre l'Éternel. » Heureusement que la Bible a été écrite. Aujourd'hui, nous pouvons en bénéficier. Si personne n'avait écrit, qu'aurions-nous comme support aujourd'hui? Nous savons très bien que le bouche à oreille, les propos se déforment tellement facilement. Hein, si vous avez déjà fait, je ne sais plus comment ça s'appelle, un jeu où on invente une phrase, on la dit à l'oreille de l'un, et puis l'un le dit à l'oreille de l'autre, et puis à la fin, le dernier doit redonner la phrase. Alors, si vous avez annoncé la première fois que la neige est blanche, quand ça en ressort, c'est « il a plu cette nuit » ou « ça n'a plus rien à voir ». Mais là, on a un support qui est inaltérable. Et une relecture de ces fameuses notes, voilà ce que le Seigneur m'a montré, peut m'éviter des souffrances inutiles si la situation se reproduit. Voilà ce qui m'est arrivé, voilà ce que le Seigneur a fait. Amen. Hébreux chapitre 2, verset 1er, c'est pourquoi nous devons prêter une plus vive attention à ce que nous avons entendu de peur d'aller à la dérive. Ne soyons pas impatients avec Dieu et avec nous-mêmes également. Le temps de Dieu et le nôtre sont rarement identiques. Et cela peut entraîner de la frustration, voire même de la déception. Nous sommes souvent pressés que Dieu agisse. Seigneur, il y a un pépin, il faut me trouver une solution tout de suite. Mais Dieu n'est pas pressé. Alors peut-être qu'on est déçu de la lenteur apparente de nos progrès et de la lenteur apparente de la réponse de Dieu. Notre Dieu ne travaille jamais dans l'urgence, mais il est toujours à l'heure. Il prendra toute la durée de ma vie pour me préparer à la place éternelle. Il me faudra un certain temps. une certaine durée pour gravir les escaliers. Seigneur, apprends-moi à être patient et patiente, à te faire confiance en tout temps. Parce que le Seigneur fait concourir. Vous savez, vous connaissez le verset ? Toute chose pour notre bien. Nous qui lui faisons confiance, nous qui l'aimons. Petite parenthèse, la semaine dernière, j'ai vu une affiche qui disait « Brocante, la semaine prochaine, je suis... » Donc ce matin, il faut que je prenne mes dispositions, je vais partir plus tôt, comme ça, si je galère pour trouver une place, au moins, ça devrait arriver, ça devrait le faire. Donc je suis parti plus tôt, j'arrive sur le périphérique, il y avait du monde, puis les gens, ils avançaient pas, puis alors j'oubliais une étape avant de partir, j'ai demandé à Dieu qu'il me garde sur la route, déjà, première des choses, et aussi, Seigneur, avec la brocante, garde-moi une place, s'il te plaît. Et me voilà parti. J'arrive sur le périph, les voitures qui avançaient pas. Alors, vas-y, avance, j'ai pas envie d'être en retard. Et le Seigneur m'a repris. Instantanément, il m'a dit, hey, Jean-Michel, tu m'as pas demandé une place ? J'ai demandé pardon à Dieu. Seigneur, excuse-moi, c'est vrai. Je te demande pardon. C'est vrai, je t'ai demandé une place. J'ai levé le pied. J'ai dit, de toute façon, le Seigneur m'a préparé une place. Je suis arrivé tranquille, j'amorce le boulevard, il y avait deux places de prêtre. Deux places pour le prix d'une. Amen. J'ai demandé au Seigneur et je suis resté impatient. Voilà. Dans un autre registre, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, je vais vous lire une petite histoire. Vous savez que régulièrement, j'aime bien agrémenter mes petites histoires, hein, pour donner un petit complément, une petite illustration. Alors, il y a peu de temps, après une visite chez l'ophtalmo, mais ça, c'est pas mon histoire, hein, un chrétien attendait avec impatience les lunettes qui feraient disparaître migraines et troubles de la vue. Formidable, quel soulagement. Mais quelle déception. Avec la nouvelle monture, les mots ne disparurent pas, au contraire. Persuadé d'une erreur de diagnostic, notre chrétien retourna voir le médecin, dont le conseil le laissa perplexe. Il devrait persévérer et s'habituer à ses verres. Ouais, j'imagine qu'il devait être un petit peu déçu. Le médecin lui expliqua, mais écoutez bien l'explication du médecin, que ses yeux s'étaient accoutumés depuis de nombreuses années à compenser seuls ses défauts de vision. Les muscles oculaires, surentraînés, continuaient leur effort et n'acceptaient pas la correction. La suite donna entièrement raison à l'ophtalmo. En moins d'un mois, à son étonnement, tout rentrait dans l'ordre. Ses yeux avaient cessé de faire de la résistance et avaient appris à se reposer, à laisser les verres travailler pour eux. Quelle leçon ! Ben dans le domaine de la foi, c'est la même chose. Jésus nous invite à lui abandonner nos fardeaux. Celui qui dit qu'il n'a pas de fardeau, formidable, je suis très heureux pour vous. Alors, pour ceux qui ont des fardeaux, le Seigneur veut les porter à notre place. Et pourtant, on ne le laisse pas faire. Hein ? Comme on est, tellement habitué à se débrouiller tout seul, à se persuader de connaître la vérité, la solution. Et puis à l'appliquer tant qu'à faire, à combattre seul nos faiblesses, à faire face seul à nos épreuves. Je dois apprendre le repos qui vient de Dieu. comme pour mon exemple de tout à l'heure. Tu remets entre les mains du Seigneur ton problème, la décision que tu dois prendre, une situation, un projet. Tu les as mis entre les mains du Seigneur. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Et j'ai noté, c'est comme celui qui prie Dieu, puis une fois dit Amen, il donne son fardeau au Seigneur, il dit Amen, il reprend son fardeau et puis il continue son chemin. Apprendre ce repos, c'est décider de faire confiance à Dieu. Mais nous avons besoin de volonté pour faire cela, d'entraînement, comme on disait tout à l'heure pour le dos. Un entraînement permet de ne pas refaire les mêmes erreurs. J'apprends à bien bouger pour ne pas maltraiter mon corps. Moi, je parle personnellement parce que comme j'ai eu des problèmes de dos, hein, pas mal, et puis Adeline m'a raconté les siens aussi. Nous avons tout à gagner en faisant cela. Mais pour laisser Jésus diriger ma vie, je dois m'habituer à marcher par la foi, à m'appuyer sur ses promesses. Ce ne sont pas les miennes, hein, de promesses. Ce sont les promesses de Dieu qui sont écrites dans sa parole vivante. Seigneur, je ne veux plus m'épuiser à combattre seul mes problèmes. Je veux entrer dans une foi féconde et une foi vraie. Pas dire, ouais, j'ai la foi, mais en fait, je ne compte que sur moi-même. C'est pas la foi, ça. Non, dans ce cas-là, tout le monde a la foi. Hein. Mais foi en quoi? Là, on parle de la foi en notre Dieu. Dans un autre registre encore, Hébreux chapitre 10, versets 36-37. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Ça, c'est une promesse que Jésus nous a laissée, qui n'est pas encore accompli, mais qui va s'accomplir. Alors, je suis découragé parce que Dieu tarde à répondre à mes prières. Personnellement, je l'ai déjà été, oui, c'est vrai. Ça serait mentir que de vous dire non, j'ai jamais. Moi, j'ai toujours fait 100% confiance à Dieu. J'ai toujours attendu. J'ai appris à attendre. C'est différent. Mais j'ai appris, en tout cas ça c'est une chose que j'ai appris, c'est que un temps d'attente, c'est pas un temps de refus. C'est pas un refus. Que l'exaucement ou le miracle n'ait pas encore eu lieu ne veut pas dire que le Seigneur ne va pas répondre ou qu'il l'a oublié, que je ne fais plus partie de ses préoccupations. Eh Seigneur, tu te souviens là, en 2011, moi je t'avais demandé un truc, hein. Eh bien, maintenant, on est en 2012. Hein. Mais peut-être c'est pas en 2012 que tu vas l'avoir. Peut-être c'est en 2020. Tu l'auras quand le Seigneur aura décidé que c'est le bon moment pour toi de l'avoir. Non, je ne fais plus partie des préoccupations de Dieu. Là, je dirais insensé. Quelle pensée insensée. Mais n'est pas encore venu le temps de la réponse, tout simplement. Alors peut-être que certaines traversent actuellement des moments difficiles, des moments d'interrogation, des grandes questions, ou même des petites questions, hein. Peut-être on se sent découragé parce que la situation me paraît ingérable. C'est comme si j'étais devant un mur. Qu'est-ce que je fais? Je vois rien. J'ai l'impression que la situation, elle est démesurée. Puis elle est injuste surtout. Pourquoi moi ? Être mûr spirituellement, c'est faire et connaître la différence entre le non et le pas encore. Parce que parfois le Seigneur dit non. Il faut être attentif à Dieu. Si on demande un truc déraisonné, on peut attendre longtemps. Là, le Seigneur dit non. Mais ça, on le sait, hein. Hein? D'accord ? Ce délai peut être un test de ma patience. Voilà. Le Seigneur veut tester ma patience. Alors peut-être que j'ai appris une fois à être patient. Mais c'est comme pardonner. Combien de fois dois-je pardonner ? Une fois. À partir du moment où j'ai pardonné une fois, ça y est, j'ai plus besoin de pardonner ? C'est comme la patience. Non. Le Seigneur va nous montrer la patience dans divers domaines. Et dans un domaine bien particulier, là où il veut nous préparer, là où il veut que nous travaillions plus particulièrement. Souvenez-vous quand on a parlé des dons et des ministères. Mon Dieu veut que j'apprenne à discerner les limites de ma patience. Je ne suis pas d'une nature patiente. Il est vrai, je le reconnais. Mais j'apprends encore à faire preuve de patience. Et je peux dire avec conviction que je suis de plus en plus patient. Pas tout le temps, hein. D'ailleurs, ma femme me dit bien le contraire assez régulièrement. Pour que je sache ce qui est au-dessus de moi, j'ai besoin de connaître mon niveau d'engagement, ma position sur l'escalier, à quel étage je suis. Quel est mon chemin parcouru ? Quel est votre chemin parcouru depuis votre conversion ? Quel est le chemin que nous avons parcouru ? On a mal les questions à réfléchir dans les jours qui viennent. Hein. Le Seigneur est fidèle. Il veut me faire comprendre qu'il est fidèle, si je ne l'ai pas encore compris. Même si les réponses que j'attends tardent à venir. Si je suis découragé, j'ai besoin d'apprendre que le Seigneur veut que je sois patient. Parce que bien souvent, quand nous sommes découragés, c'est parce que nous attendons quelque chose qui ne vient pas. Et alors, on s'assoit sur un banc et on regarde l'eau couler. Mais c'est parce que le Seigneur demande. Donc le Seigneur a besoin de changer notre comportement, de travailler notre patience. D'ailleurs, prions pour notre patience. Souvenez-vous d'Abraham. J'ai listé quelques versets pour vous remémorer un petit peu ce qui s'est passé à une certaine époque de la vie d'Abraham. Genèse 13, versets 15 et 16. Le Seigneur dit à Abraham: car tout le pays que tu vois, Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham, je le donnerai à toi et à ta... Est-ce qu'il a bien entendu là, Abraham ? Et à ta postérité. C'est quoi une postérité ? C'est les enfants que tu vas engendrer et les enfants qu'ils vont engendrer et ainsi de suite. Je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité sera aussi comptée. Là, je pense qu'en quelques phrases, les promesses du Seigneur étaient claires. Et à l'époque, quand le Seigneur te parlait, c'était clair. Genèse 17, 2, j'établirai mon alliance entre toi et moi. Le Seigneur, il remet une petite couche, comme on dit. Et je te multiplierai à l'infini. Je crois que le Seigneur n'a pas dû tirer assez sur les oreilles d'Abraham. Un petit peu plus loin, Genèse 17, verset 19, Dieu dit, certainement, c'est sûr quoi, Sarah, ta femme, t'engendra un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Encore postérité, hein? Bon. Genèse 21, versets 1 et 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Le Seigneur, il a dit, il s'en souvient, il n'a pas oublié. Abraham n'est pas sorti des préoccupations de Dieu. D'accord ? Il se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Voilà. Postérité. Et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé, en plus c'est écrit, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Ça ne pouvait pas être plus clair. Enfin, j'ai sauté volontairement un chapitre, une histoire. Genèse 16, versets 1 et 2. Sarai, avant de s'appeler Sarah, elle s'appelait Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Oui. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar, et Sarai dit à Abraham, « Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. » Ah bon ? Où est-ce qu'elle est allée chercher ça ? « Viens, je te prie, va vers ma servante, pour la postérité, peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. On a l'impression de revivre encore Adam et Ève. Ève, et puis Adam suit. Je ne vais pas reprendre l'histoire, mais je pense que vous avez compris. Abraham, Sarah n'ont pas attendu l'accomplissement de la promesse de Dieu. Ils ont été impatients. Puis souvenez-vous de la suite, ce que ça a donné, la division de ces peuples, Ismaël d'un côté, Isaac de l'autre. On le vit encore aujourd'hui. Abraham et Sarah ont désobéi. Pourtant, la promesse était là. Revenons à nous. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui me semble insupportable? Et peut-être tu penses, Seigneur, j'en peux plus là. C'est trop. Je suis devant un mur, j'ai pas de solution. Je ne vois pas de solution. Mais si, il y a la solution. Mais c'est pas moi qui l'ai. Et en plus, quand je sais que c'est Dieu qui a la solution, ça devrait être merveilleux. Pourquoi t'inquiéter? Dieu a la solution. Tu auras la solution à ton problème ou à ta question le moment venu. Seul celui qui abandonne la partie a échoué. Mais pour ceux qui n'abandonnent pas la partie, la vie continue. Et les bénédictions du Seigneur s'accomplissent et s'accompliront. Apprenons la patience. Ne soyons pas impatients avec le Seigneur. Tout vient à point. À qui sait attendre ? Que Dieu bénisse sa parole, qu'il vous et qu'il vous bénisse et vous donne la patience nécessaire. Amen.